Place à l'actu près de chez vous et on retrouve Fabien Gazeau. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. 400 personnes ont participé à une réunion de crise hier soir sur la grippe aviaire à Secondigny. De nouveaux cas suspicieux sont suivis en Deux-Sèvres ces dernières heures. Gros plan dans ce journal sur une unité qui accueille des enfants autistes au sein même d'une école maternelle. Ça se passe à Maucoutan. Le forum Job été et emploi saisonnier fait son retour à Bocapol ce samedi. L'occasion de tester sa e-réputation. Un spectacle qui aborde la question des migrations, soutenu par Amnesty International et présenté aux collégiens et lycéens cette semaine et au grand public lundi et mardi prochain à Bressuire. L'assemblée générale de l'association qui gère le centre de formation des Chamois-Niortais se tenait hier soir dans un climat plutôt tendu. La circulation du Covid toujours active en Deux-Sèvres la semaine dernière, mais toutefois moins marquée que la semaine précédente avec 1393 cas pour 100 000 habitants contre 1469. 5193 nouveaux cas ont été recensés contre 5513 la semaine d'avant. Selon ce dernier bilan de l'ARS 79, 78 hospitalisations Covid sont en cours sur le département des Deux-Sèvres. C'est plus 14 en une semaine. Grippe aviaire, une réunion hier soir à l'initiative de la Chambre d'agriculture. 400 personnes, dont 350 éleveurs, ont participé à cette rencontre à Secondigny. L'administration, des élus, les secteurs de la banque et des assurances, la MSA, les transformateurs aussi étaient représentés, car c'est toute une filière qui est chamboulée par la propagation d'un virus qui court toujours en Deux-Sèvres, même s'il n'atteint pas le niveau des voisins vendéens. Deux nouvelles suspicions de cas de grippe aviaire dans le nord-ouest du département sont apparues ces dernières heures, comme nous l'a confirmé le président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, Jean-Marc Renaudot, pour qui l'essentiel est de préserver la filière pour repartir après la crise.
C'est aussi comment redémarrer demain. Il faut que l'on préserve d'abord la génétique et ensuite l'ensemble aussi des acteurs. Les éleveurs sont concernés au premier rang parce que la maladie se déclare dans les élevages, mais par conséquence, c'est les transporteurs, c'est les fabricants d'aliments, du bétail, c'est les abattoirs, c'est tous les outils de transformation et tous les métiers qui tournent autour de toutes ces différentes entreprises qui seront concernées, qui sont impactées par cette baisse d'activité et cette épidémie qui se propage.
Toute la filière doit se montrer solidaire, estime le président de la Chambre d'agriculture en avançant la piste de la vaccination, puisque s'il y aura bien une sortie de crise, la grippe aviaire reviendra fatalement. Il faut donc imaginer des solutions pour l'avenir.
On est tous, il faut rester solidaire, quels que soient les modèles de production. Parmi les pistes, dans un premier temps, sur la partie canard, est étudiée, va être mise en place, le ministère va mettre en place la recherche sur la vaccination. Et c'est une des pistes, effectivement, qui va être recherchée. Et puis, que ce soit l'État et les quatre régions concernées, Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine pour nous, Pays de Loire, la région Bretagne et l'Occitanie, vont participer justement à cette expérimentation sur la vaccination. Le canard, et puis après, ça pourra effectivement avoir s'il y a la possibilité aussi sur les volailles.
Une éventuelle vaccination contre la grippe aviaire qui changerait la donne en matière d'exportation. Affaire à suivre, la région Nouvelle-Aquitaine a voté une aide de 800 000 euros en faveur de Cartol dans le cadre de son soutien aux projets innovants et aux investissements. La collectivité va donc aider l'entreprise cerisienne à hauteur de 794 500 euros précisément. Cartol veut accentuer sa diversification, notamment en direction du secteur ferroviaire. Lors de cette même commission permanente, les élus régionaux ont octroyé une aide de 100 000 euros à Avenir Atlantique de Parthenay. L'aide s'inscrit dans une perspective de réduction de l'impact carbone. Les enfants autistes accompagnés dès leur plus jeune âge à Maucoutan, une classe UEMA, c'est la deuxième en Deux-Sèvres après Niort, a ouvert ses portes en septembre dernier au sein même de l'école publique maternelle Les Coloriades à Maucoutan. On en parle aujourd'hui parce que samedi avait lieu la journée mondiale de l'autisme. La ville s'est naturellement positionnée lorsque l'opportunité s'est présentée, c'est-à-dire lorsque le GPA a remporté un appel d'offres national pour ouvrir cette unité d'enseignement maternel autisme. Une suite logique, comme le souligne Cécile Vrignot, maire déléguée de Maucoutan.
Oui, depuis plusieurs années déjà, on a accueilli au niveau de l'école de la Sève, l'école primaire, une classe Ulysse. Et donc il y a une continuité sur le collège Jacques Prévert avec des enfants qui intègre le dispositif Ulysse également. Donc en fait, il nous paraissait tout naturel de commencer par le commencement au niveau de la maternelle et d'accueillir un dispositif UEMA.
Quelques petits travaux d'aménagement ont été effectués par la commune. Les enseignants et le personnel ATSEM de l'école ont suivi des formations spécifiques à la rentrée. Les parents d'élèves ont été informés. Bref, tout s'est rapidement mis en place pour œuvrer à l'inclusion de ces jeunes enfants qui viennent de Bressuire, pour deux d'entre eux, d'Hervaux, de Parthenay, de Combran, mais aussi de Niort. Stéphanie Vignart, directrice Nord de Sèvres pour le GPA.
Ce sont des enfants d'âge maternel, donc entre 3 et 6 ans, pour lesquels un diagnostic a été posé d'autisme, qui sont accueillis donc dans ce dispositif médico-social au sein de l'école maternelle, l'école Oriade.
Avec un encadrement très spécifique.
Tout à fait. On a donc une équipe médico-sociale qui est dévouée à l'accompagnement de ces enfants, ainsi qu'une enseignante spécialisée et une AESH.
Le projet est adossé à une école existante parce qu'il y a des temps d'inclusion. Et ça, c'est un point majeur.
C'est ça, tout à fait. L'école inclusive. Donc ces enfants, non seulement déjà symboliquement, vont à l'école, comme tous les autres, au sein de l'école maternelle, mais en même temps partagent des temps communs avec les petits camarades des classes à côté. Alors, en fonction de leurs possibilités, ça peut être seulement 15 minutes, 30 minutes, ou sur des activités spécifiques. Mais en tout cas, voilà, sur des temps communs, on a ces temps de regroupement et de partage, en tout cas, entre les enfants de l'UMA et les autres enfants.
Et les progrès sont déjà mesurables pour des enfants qui ont été diagnostiqués relativement tôt, un élément clé dans la prise en charge. À peine 6 mois après l'ouverture de cette unité à Montcoutan, encadrée par une équipe coordonnée par Gaëtan Courtiol.
On voit déjà certains progrès. Il y a des enfants qui formulent des demandes, qui n'étaient pas du tout dans l'interaction avec les autres, qui... Alors, principalement c'est de l'interaction avec les adultes, mais qui commence à amorcer de plus en plus des demandes et des progrès se constatent même au domicile et les familles nous en font des retours.
Il y a le travail à l'école, mais il y a aussi tout le lien avec les familles qui permet de prolonger ces temps d'apprentissage finalement.
Oui, dans le cahier des charges, en fait, à l'accueil d'un enfant à l'UMA la première année, il y a des VAD, des visites à domicile qui ont lieu tous les 15 jours avec les familles. Donc il y a tout un travail de guidance parentale et d'accompagnement pour qu'il y ait une cohérence de l'accompagnement de l'enfant dans tous les lieux de vie qu'il peut avoir.
6 enfants sont donc accueillis actuellement à l'UEMA de Montcoutan. Un 7e pourra être accueilli si la structure parvient à obtenir le renfort de psychologues et orthophonistes à temps partiel. Un appel est lancé. La préfecture des Deux-Sèvres organisera ce jeudi à compter de 14h un exercice de sécurité civile de lutte contre un feu d'espace naturel dans le massif forestier de Chizé, en lien avec les services d'incendie et de secours, la gendarmerie et l'Office national des forêts. Cet exercice d'ampleur se traduira par le déploiement de plusieurs véhicules et de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours. Des équipes du SAMU, des personnels du groupement de gendarmerie départementale seront également déployés. C'est un spectacle soutenu par Amnesty International, auquel les élèves du campus des Sicaudières, de la cité scolaire Genevois Signoret, du collège Supervielle de Bressuire, mais aussi le grand public vont pouvoir assister lundi et mardi prochain. Un seul mot d'ordre: susciter le dialogue, multiplier les points de vue pour amener à la réflexion sur les migrations. Pour ce faire, les acteurs de la compagnie La Chaloupe, qui joue ce spectacle, proposent une déambulation passant d'un personnage à un autre, d'un récit à un autre, pour mieux comprendre les étapes du parcours d'un réfugié. Jean Gobeau, l'un des membres d'Amnesty International, au micro de Jacqueline Pinon.
Les spectateurs sont placés comme s'ils étaient des réfugiés pour les passer en situation, ce qui fait que c'est assez surprenant parce qu'effectivement on se retrouve presque très gêné d'être dans ce spectacle en se disant c'est pas possible que ça se passe comme ça. On ne peut pas ressortir sans avoir changé son regard, changé son idée sur ce qu'est la réalité des réfugiés, et que le public se rende compte au fur et à mesure de ce que ça veut dire.
On est complètement dans les missions d'Amnesty.
Tout à fait. Notre rôle, c'est bien sûr de combattre les préjugés, de gérer et d'amener le vivre ensemble. Et le rôle d'Amnesty, c'est aussi de faire de l'éducation aux droits humains par rapport aux enseignants, par rapport au public.
Et donc aux élèves, prioritairement ?
Alors on intervient beaucoup au niveau des établissements scolaires, un peu dans toute la France, bien entendu, nous sommes agréés par l'éducation nationale.
Un enjeu majeur, combattre les préjugés à travers une information fiable, c'est ce à quoi s'emploient les enseignants, à l'image de Cathy Perroquin, qui accueillait les membres d'Amnesty dans sa classe de bac pro des Sicodières.
Ça, ils ont su le dire, les élèves, qu'on ne parle pas de migrants, mais de réfugiés, et un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit quelque chose. Mais je pense qu'il faut toujours, toujours, derrière ce mot valise, migrant, il faut toujours y mettre une réalité qui est une personne. J'essaie de travailler vraiment sur les préjugés, les représentations. Alors j'ai tendance à dire à mes élèves que nous avons tous des cerveaux paresseux et que une solution toute faite, c'est bien plus facile que d'aller rechercher de l'information, croiser ses sources.
Les amener à réfléchir.
Les amener à réfléchir. Je donne l'exemple, un élève tout à l'heure nous a dit « mais on est envahi ». Ok, et je lui dis, mais toi, dans ton village des Deux-Sèvres, est-ce qu'il y a des migrants? Et il me dit, ben non. Donc c'est ça que j'essaye de leur faire prendre conscience des incohérences entre ce qu'on entend, puis la réalité de notre quotidien.
Mu, c'est le nom de ce spectacle joué par la compagnie La Chaloupe et ouvert au grand public. Mardi soir prochain, sur le ring de la ferme du campus des Sicodières, représentation à 20h. Le service culturel de la ville de Bressuire organise une rencontre avec Franck Hérol qui a réalisé les deux sculptures monumentales Les Filles de Bressuire sur la place de la gare. L'artiste évoquera son travail et son livre Maman Recto Verso, un recueil de textes écrits par des anonymes consacré aux femmes. Tous les bénéfices de ce livre sont reversés à la Fondation des Femmes qui agit au quotidien pour leurs droits et la lutte contre les violences dont elles sont les victimes. Cette rencontre gratuite et ouverte à tous aura lieu samedi 9 avril à la salle des congrès de Bressuire à partir de 10h30. Le climat est électrique autour des Chamoignortais. Nouvelle illustration hier soir lors de l'Assemblée Générale de l'association qui gère le centre de formation et dont les principaux financeurs sont la structure professionnelle des Chamois et les collectivités locales. La ville de Niort et l'agglo. Et ce n'est pas un secret, les relations sont fraîches entre les frères Hanouna et les élus. Le président Jean-Louis Mornay avait convoqué cette assemblée pour réélire le conseil d'administration après avoir, je cite, constaté des irrégularités lors du vote en décembre. Un vote qui ne convenait pas à Michael Hanouna. Présent à l'Assemblée Générale, Jérôme Baloge, maire de Niort et président de l'agglo, a déploré la tenue de cette nouvelle élection, tout en annonçant 385 000 euros pour la mise aux normes de René Gaillard.
C'est une situation dommageable. Je me suis employé depuis plusieurs mois à faire en sorte que chacun s'entende, à apaiser les partis, arbitrer. Et je ne peux que regretter que ce soir, l'intelligence n'ait pas triomphé. Voilà, c'est dommage pour l'image de nos Chamois. Moi, j'y suis attaché. Et j'aurais aimé que chacun comprenne que voilà, cette Assemblée Générale, ce soir, était inutile parce qu'irrégulière. Et donc, trouver les moyens d'un apaisement entre les différentes parties prenantes. Ça dure quand même depuis 3 ans presque maintenant. Il serait temps qu'on en sorte pour le bien des Chamois et pour le bien de Niort. L'agglomération en particulier s'est employée à mettre les moyens pour que le Stade René Gaillard maintienne son homologation en Ligue 2. Et donc, voilà, on travaille aussi sur le bail amphithéotique à Ville-La Rochelle. On est des partenaires financiers importants de l'association aussi. Donc je pense que la voix de la ville doit être entendue, surtout quand elle s'emploie à être la voix de la raison et de la conciliation.
Jérôme Baloge, qui s'est éclipsé avant le vote, qui s'est déroulé après plus d'une heure d'échanges peu cordiaux et quelques prises de bec à l'annonce de l'élection des 15 membres du CA, Michael Hanouna, dirigeant de la structure professionnelle, s'est empressé de prendre la parole pour demander l'élargissement du conseil d'administration.
On a exprimé chacun nos différences, chacun exprimé ses positions. Il y a un vote qui a sanctionné un résultat. Donc ce résultat a élu 15 membres et on a pensé tous ensemble que ce serait peut-être bien d'élargir le conseil d'administration peut-être de 15 à 21 pour que plus de personnes puissent participer et qu'on intègre le maximum de gens à ce conseil d'administration. Je ne pouvais pas faire cette proposition avant parce que tout simplement je ne savais pas qui allait être élu. Mais quand j'ai vu que dans les élus il n'y avait pas des gens qui étaient au club depuis des années, ça m'a fait... j'ai eu un petit pincement au cœur. Et j'ai demandé au conseil d'administration et à l'association d'élargir le nombre de membres de l'association. Donc la volonté globale, c'était d'essayer d'intégrer dans ce conseil d'administration des gens qui sont actifs au niveau de la communauté, on va dire des chefs d'entreprise locaux. des gens qui ont aujourd'hui pignon sur rue, qui travaillent. Nous avons des gens qui sont un peu plus âgés, qui sont retraités avec d'autres valeurs. On avait besoin d'intégrer des gens qui sont un peu plus jeunes et qui ont peut-être un peu plus de dynamisme pour mener des actions. Donc réunir l'ancienne génération et une nouvelle génération, je pense que c'est très bien pour construire un bel avenir.
Voilà, à propos recueilli par D4B hier soir lors de l'Assemblée générale du centre de formation des Chamois-Niortais. La Romagne est en déplacement ce soir à Angers. On parle tennis de table pour le compte du championnat de Pro A. Au-delà du derby, c'est un match important dans l'optique du titre de champion de France. À quelques matchs de la fin de la saison, la Romagne est actuellement leader et les Angevins sont troisième à 3 points seulement.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
De nouveau un temps plutôt nuageux demain. Quelques éclaircies cependant en matinée, mais le ciel s'assombrit de nouveau dans l'après-midi et devient menaçant avec quelques petites pluies. Les températures demain assez douces, 8-9 degrés au lever du jour, 12-13 degrés pour les maximales. Le vent se lève demain après-midi, 50 km/h en rafale, un vent qui va s'intensifier cette fin de semaine. Fin de semaine qui s'annonce bien agitée, de la pluie et du vent au programme. Toute l'info près de chez vous revient désormais demain matin à 7h avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci Fabien.